moi, l'histoire, c'est plus donc que le récit des événements du passé. Pour moi, l'histoire, c'est aussi la réflexion sur le passé. On est au carrefour de beaucoup de choses. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'on ne peut pas imaginer que des historiens de métier se mettent à écrire une histoire de quelque communauté que ce soit, tout seul, en tant qu'historien. On ne peut pas comprendre aujourd'hui notre monde si on n'a pas des analyses extrêmement précises. Je veux dire, pour comprendre la mondialisation aujourd'hui, ça demande des analyses d'économie extrêmement précises.
Comment expliquez-vous que l'histoire du continent africain en général est assez mal connue, y compris d'ailleurs par les Africains eux-mêmes?
J'allais dire d'ailleurs surtout par les Africains eux-mêmes. Je pense que sans vouloir tout mettre sur le dos de la colonisation, on a l'impression qu'il y a une véritable tentative de décérébrer les Africains, c'est-à-dire de leur enlever ce qui constitue leur colonne vertébrale, à savoir donc la connaissance de leur passé. Et ça, ça a joué sur la durée. Vous savez, depuis les indépendances, on a essayé de rectifier le tir, si j'ose dire, mais on n'a pas beaucoup avancé dans la mesure où les connaissances qui ont été produites, je pense notamment à l'histoire générale de l'Afrique, cette somme que vous connaissez de 8 volumes massifs, eh bien, ces volumes-là qui ont été produits sous les auspices de l'UNESCO sont restés là, dans des rayons, et ne servent que des chercheurs d'un certain niveau. Mais alors que les producteurs de cette œuvre-là, nos devanciers, les Joseph Kizerbo, les Chakanta Diop, avaient espéré que cette histoire générale de l'Afrique devait servir donc pour l'enseignement dans les petites classes.
Qu'est-ce que vous reprochez à l'enseignement de l'histoire tel qu'il se fait actuellement?
L'enseignement de l'histoire, comme je vous l'ai dit, se cantonne un peu dans sa vieille conception, c'est-à-dire c'est une histoire récit. Alors, je pense qu'il faudrait plus mettre l'avantage sur la promotion de l'esprit critique. L'histoire doit apprendre à comprendre le monde dans lequel on est. Et ça doit permettre, ça c'est plus important, à se projeter. L'horizon devient extrêmement obscur et l'histoire devrait pouvoir donner des repères à nos jeunes pour reprendre de l'espoir, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi.
Donc c'est-à-dire en leur montrant à quel point leur passé a été riche aussi, culturellement, en termes de,
oui, c'est ça.
De pensée,
oui,
aussi.
On nous a fait souvent le reproche, ou plus exactement, on a fait à nos aînés le reproche d'avoir embelli souvent l'histoire africaine, le passé africain. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'ailleurs d'embellir le passé africain. Je pense que comme disent les anglo-saxons, les évidences de l'histoire africaine suffisent pour montrer à nos jeunes qu'on ne vient pas de rien, qu'on a derrière nous un passé très long. Et que l'histoire de l'Afrique ne se ramène pas, comme disait Joseph Kizerbo, que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec le contact avec l'Europe.
Mais comment convaincre aussi à la fois les pouvoirs publics et la population de la nécessité de se pencher sur cet examen du passé, sur une réflexion historique pour arriver à se définir, alors que beaucoup pourraient penser qu'il y a d'autres priorités dans l'immédiat, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'un raccordement aux égouts ou d'investir dans l'électrisation. Comment convaincre les gens que c'est tout aussi important ou presque que le quotidien?
Il faut créer le désir de s'approprier son histoire. Et ça, c'est une interpellation, c'est un défi pour les pédagogues enfin, qui sont parmi nous, qu'il ne suffit pas de produire l'histoire, il faut, y compris dans vos pays d'ailleurs, il ne suffit pas de produire l'histoire, il faut pouvoir rendre cette histoire dans l'espace public. C'est ce que nous n'avons pas réussi. Nous produisons des thèses très savantes, mais si on n'arrive pas à les travailler de manière à ce qu'elles puissent être accessibles à un public relativement, qui a une culture moyenne, tout le monde n'a pas passé des années à aller faire des études d'histoire. Et donc ce travail, j'allais dire, de vulgarisation, certains n'aiment pas bien ce terme, il faut le faire. C'est de un. De deux, je pense qu'il faut aussi, peut-être pour attirer l'attention de nos pouvoirs publics, Il faut peut-être insister sur les impasses dans lesquelles nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, une des questions importantes, je pense, en Afrique, c'est quand même la question identitaire. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Et même ces questions qui ont trait à la religion, mais en réalité, on est dans l'identité. Souvent, la religion était soit un paravent, un prétexte pour des affirmations identitaires. Et donc, comment pouvoir saisir l'identité si on n'apprend pas le passé, si on ne voit pas les mémoires qui se sont accumulées dans le cas de mon pays, par exemple le Mali. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Mali aujourd'hui si vous n'avez pas cette stratification des mémoires. Mémoire pré-islamique, mémoire islamique, mémoire coloniale, si j'ose dire, mémoire du présent. Donc, comment vous voulez apprendre un jeune malien à se connaître si vous ne lui faites pas connaître ces différents aspects de sa personnalité qu'il devra assumer d'une façon ou d'une autre?
Étant donné les rapports de force géopolitiques actuels, l'Afrique n'est pas en position dominante, culturellement parlant. C'est encore l'Occident qui a la mainmise sur le discours qui domine et qui domine les esprits un peu partout, y compris sur le continent africain. Comment parvenir à créer malgré tout un discours qui soit audible en dehors de l'Afrique? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de président européen qui puisse venir dire en Afrique que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire.
Et ça, c'est un défi entier parce que c'est aussi la déconnexion qu'on a en Afrique entre les milieux de la recherche et les milieux politiques. Et c'est très dommage. Parce que ce que je pense qu'on devrait comprendre, et il faudrait le comprendre d'ailleurs assez vite, le paradigme du développement, on en parle, puisque vous parlez de domination, qui est effectivement réel. Mais quand on regarde autour de nous, on voit les grandes civilisations de ce monde, mais on voit qu'il n'y a aucun des espaces qui se soit développé à partir d'une culture, extérieure. Le développement, il est difficile de l'envisager sur un terreau culturel, extérieur. Lorsqu'on vient expliquer ici, par exemple, à nos jeunes que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire, c'est parce qu'on s'adresse à un terrain que l'on croit réceptif.
Selon vous, en tant qu'historien, l'Afrique existe? Est-ce que c'est une entité qui existe réellement ou est-ce que c'est une construction intellectuelle ou purement géographique? Je veux dire que est-ce qu'il y a une Afrique intrinsèque qui existe depuis longtemps avec une culture commune, des traditions, une histoire commune, ou est-ce que l'Afrique a été constituée par des regards extérieurs?
Oui, ça c'est un vieux débat, mais je pense que l'identité, ce n'est pas simplement la façon dont on se voit. L'identité, c'est aussi la manière dont les autres vous voient. Donc, soyons réalistes. Ce qui est dommage, c'est de n'exister que sur la façon dont les autres vous voient. Donc, pour répondre clairement à votre question, oui, l'Afrique, d'une certaine façon, a été pendant longtemps une construction de... Oui, je crois qu'un de mes aînés a fait un livre remarquable, Modimbe, qui a montré comment l'Afrique a été inventée par la littérature occidentale, très exactement par tout un cheminement intellectuel occidental. Oui, cette invention, elle existe. Mais à côté de cela, il y a l'Afrique telle qu'elle se vit, telle qu'elle se donne à connaître elle-même, et qui existe bel et bien, malgré tout ce qu'on peut dire. Quelle est une diversité? C'est le propre, c'est quand même un continent. On n'est pas dans... L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent.
Gigantesque, donc la diversité, en plus, oui.
Oui, ça dépend. Lorsqu'on regarde, je prends simplement cet exemple. On vous présente les langues africaines comme une multitude de langues. Mais les linguistes qui m'écoutent le savent très bien, que ces langues africaines sont regroupées dans quelques grandes familles. Et que cette apparente diversité, en réalité, elle cache aussi une unité structurelle. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a, malgré la diversité de l'Afrique que personne ne peut contester, qu'il y a bien une façon d'être et que les Africains revendiquent. Nous, vous savez, aujourd'hui, nous réfléchissons beaucoup à un concept, c'est celui de l'africanité globale, qui n'est pas simplement une question chromatique. question aussi de la présence africaine au monde. Ça existe.